Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
Le grand oral des grandes gueules.
Michel Onfray, avec qui nous allons parler aussi du rendez-vous de la lutte contre l'illettrisme, des livrets des stars, 26 et 27 juin, place de Fontenoy, dans le 7e arrondissement parisien. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez voté, Michel, dimanche dernier?
Non.
Ah, vous faites comme les Français, alors?
Bah oui. Je suis majoritaire dans le pays.
Deux tiers des Français.
Ouais, et alors?
Et pourquoi, alors, vous?
Parce que je pense que tant qu'on ne changera pas la règle du jeu, ça ne sert à rien de laisser croire aux gens qu'on va prendre en considération leur avis. Souvenez-vous, en 2005, quand ils ont donné massivement leur avis contre le traité européen, on leur a dit « bah non, finalement, vous avez mal voté ». Et on leur a envoyé dans les pattes les députés et les sénateurs qui, eux, alors qu'ils sont censés représenter le peuple, ont voté contre le peuple. Il n'y a pas eu d'excuse pour ça. Ça s'appelle une espèce de coup d'État, tout de même. Et depuis, rien du tout. Vous avez vous savez, on dit beaucoup que le pays légal et le pays réel, c'est une expression de Maurras. Ça se trouve dans les Misérables, chez Victor Hugo. Et je pense que ne coïncident pas aujourd'hui le pays réel et le pays légal. Quand vous voyez ce que fait le Front National d'un point de vue électoral, avant les régionales peut-être, et le nombre de députés qui sont les leurs, ou le nombre de députés des communistes, quand vous voyez ce qu'ils représentent réellement, vous dites la représentation, elle n'est pas juste. Quand vous regardez le nombre, je ne sais pas, de marins-pêcheurs, de chauffeurs de taxi, de petits paysans, de jeunes à l'Assemblée nationale, vous dites la représentation, elle ne se fait pas ici. Donc je pense que ce qui s'est dit dimanche dernier, c'est la mort de la démocratie indirecte. Et ça n'a pas été beaucoup dit. C'est-à-dire on dit, mais les gens ne sont plus intéressés par la politique. Mais au contraire, ils sont terriblement intéressés par la politique. Ils disent juste, mais on peut voter si vous prenez en considération ce qu'on vous dira quand on aura voté. Si vous jetez notre vote à la poubelle quand il ne nous convient pas, ou si vous estimez que notre vote est un vote de fasciste, de nazi, de pétiniste, etc., etc., alors on joue plus ce jeu-là. Jouez-le entre vous.
Certains ont minimisé cette abstention en disant, oui, bon, c'est lié aussi à la pandémie, le calendrier. Et puis, rassurez-vous, de toute façon, les Français voteront la présidence. Parce qu'ils savent bien que c'est là où tout se joue.
Pas sûr, parce qu'ils ont bien compris que de toute façon à la présidentielle il y avait une espèce d'entonnoir, que tout était fait pour qu'on ait deux candidats, un candidat du bien, un candidat du mal. Marine Le Pen, elle est tout à fait fréquentable pendant 5 ans. Tout le monde l'invite sur les plateaux télé, à la radio, elle parle, dès qu'elle intervient quelque part, elle est dans le journal de 20h, donc tout ça est formidable. Et puis entre les deux tours, alors qu'il a fallu vraiment qu'elle soit présente au deuxième tour, elle est nazie, elle est fasciste, etc. Souvenez-vous quand même, Macron est élu le soir du premier tour, tout le monde le sait, le second tour est une formalité. Que fait-il entre les deux tours? Il va à Oradour-sur-Glane, et comme si ça ne suffisait pas, il s'en va aussi au mémorial de la Shoah. Donc si cette dame est vraiment le nazisme, si Marine Le Pen c'est Oradour-sur-Glane et la Waffen-SS, il faut le dire, mais à ce moment-là, il ne faut pas l'inviter pendant les 5 ans, moins 2 jours, moins une semaine.
Une sorte de mascarade.
Mais c'est une mascarade parce qu'après on dit, vous avez vu, maintenant vous avez le choix entre le bien et le mal. Et le bien c'est toujours un maastrichtien, de droite, de gauche, après ça c'est pas très grave. Hein. Ça peut être Sarko, ça peut être Hollande, ça peut être Xavier Bertrand.
C'est le choix aussi du peuple.
Macron, non, c'est pas le choix,
le
choix du peuple si on
et
vous
ensuite,
dit.
Le peuple a choisi Macron.
Non, mais le choix si on vous dit aujourd'hui c'est cette sardine à l'huile ou Macron à l'huile, et qu'on vous dit, mais vous voyez, les gens n'aiment que les boîtes de conserve, n'aiment que les trucs à l'huile, mais vous n'offrez que ça.
Au premier tour, il y a 10, 15 candidats, les Français.
Mais où sont les gens qui sont alternatifs? Où est l'alternance? Si l'alternance, c'est lutte ouvrière, la Ligue communiste, le nouveau parti anticapitaliste, si c'est Mélenchon, les gens n'ont pas envie d'une alternative comme celle-ci.
Ce serait quoi l'alternance?
Ah, mais moi, je suis sûr. Alors, je dis pas l'alternance, l'alternative, parce que l'alternance justement c'est les mêmes et on recommence, et on a un blanc bonnet et on choisit un bonnet blanc, on se dit oh là là, c'est considérable ce changement. Le vrai changement c'est de dire, mais il y a un peuple, vous savez, en France, et il n'y a pas que Paris. La politique c'est pas seulement les gens qui font de la politique politicienne, la politique elle est faite par plein de gens qui ont envie d'en faire à nouveau. Si vraiment on était sur une logique non plus jacobine, avec les jeux de partis et de partisans, les espèces de tambouilles qui effraient tout le monde, mais qu'on se dise, mais le peuple a son mot à dire. Qu'ont dit les Gilets jaunes? Des choses extrêmement intéressantes. Ils voulaient une démocratie directe, ils voulaient des référendums d'initiative populaire, ils voulaient que les référendums soient étendus. Pourquoi est-ce qu'on a peur du référendum du peuple? Ah, mais on va tout de même pas faire des référendums sur la peine de mort.
Ils voulaient des référendums, mais ils voulaient forcément qu'on réponde oui à ce qu'eux, ils souhaitaient. Le référendum, il faut accepter que les Français répondent non à quelque chose qu'on défend aussi.
Là, vous êtes en train de parler de 2005 et de toute la classe politique.
Ben, c'est vrai.
Pas et des non. Gilets jaunes.
Non, parce que certains gilets jaunes ont été très directifs dans leurs revendications.
Certains. Mais certains, ça fait pas les gilets jaunes, et les gilets jaunes, ça fait pas la France. Moi, je vous assure que les gens, ils ont envie qu'on leur redonne la parole, et ils ont envie de s'exprimer à nouveau. Vous savez, quand le général de Gaulle perd une élection, il s'en va. Quand Mitterrand perd une élection, il reste. Quand Chirac perd une élection, il reste. Macron a perdu toutes les élections depuis qu'il est élu. Toutes. Qu'a-t-il fait ? Rien, il reste. Et puis, il a bien l'intention de rester un quinquennat supplémentaire. Il n'a pas dit, bon, eu égard à ce que j'ai entendu et ce que vous m'avez dit, je ne me représenterai pas. Il ne dit pas ça du tout. Tous les ministres...
Ces élections sont des élections locales,
bien sûr.
Rien à voir avec son action.
Bah, vous pensez bien que s'il les avait gagnées, il ne dirait pas ça. Hein. Donc, il y a juste un moment donné où on se dit, est-ce que vraiment les gens sont capables de tirer des conséquences ? Par exemple, Dupond-Moretti aurait dû démissionner le lendemain. Ça me paraîtrait le minimum de l'élégance et de la démocratie que de dire vous n'avez pas voulu de moi, je ne suis pas légitime à ce poste, je m'en vais. Pas du tout, il est confirmé. Tous les ministres qui ont perdu, ils sont toujours à leur poste. Qu'a fait Emmanuel Macron ? Rien du tout. Vous me direz, il y a un deuxième tour, mais je vous parie qu'à l'issue du deuxième tour, il ne changera rien, il ne fera rien.
Enfin, quand vous avez un monsieur grand pas, vous n'arrêtez pas d'écrire, rassurez-moi.
Quel rapport ?
Ça veut dire que si vous avez un bouquin qu'ils n'ont pas, le public n'est peut-être plus là. Vous n'avez pas en conclure que le public n'est plus là et qu'il faut arrêter.
Mais comparaison n'étant pas raison, je ne vois pas le rapport. Faire un livre, c'est pas être investi par le suffrage universel.
Faire un livre, c'est vouloir rencontrer un public. Bon, normalement.
Oui.
Rencontrer des lecteurs. Donc, vous faites un bouquin qui marche bien, donc ça veut dire que
Parce que vous pensez que la politique.
Je fais un parallèle. Donc, c'est parler avec des lecteurs, avec un public. Oui, et c'est ce qu'il y a de plus gratifiant, je pense, pour un auteur. C'est ce rapport magique. Si ce rapport magique, vous ne le rencontrez pas sur un bouquin, vous devez en conclure donc que ce que vous faites.
On ne va pas disserter sur des comparaisons. D'ailleurs, je ne comprends pas très bien la comparaison. Je dis simplement, moi, je ne suis pas président de la République, mais quand on est président de la République, on est investi de plus que soi. Moi, je ne suis investi que de moi-même. C'est-à-dire, un président de la République, il y a les deux corps du roi, vous savez bien, et il y a un corps qui a des devoirs, qui n'a pas que des droits. Il n'a pas le droit de danser, de se trémousser, d'accompagner des garçons qui font des galipettes à l'Élysée. Il a des devoirs. De faire marcher le pays, vous avez tellement raison.
Il peut se trémousser, s'il veut marcher le pays, ça ne me dérange pas.
Tellement raison. Moi, mon but, ce n'est pas de vendre des livres, c'est de faire avancer des idées. Mais bon, c'est pas très intéressant ce sujet me concernant. Mais je pense que le chef de l'État, il incarne la France. La France dit des choses, il n'entend pas. Il dit, mais je vais refaire un tour de province parce que je voudrais savoir un peu ce que pensent les Français. Mais c'est un aveu terrible de la part d'un chef de l'État. Il nous dit, j'ai besoin de prendre le pouls des Français. Mais vous devriez savoir, quand vous êtes chef de l'État, ce qu'est la France, ce que veut la France. D'autant plus qu'à chaque fois qu'elle s'exprime, la France, elle vous dit clairement ce qu'elle veut.
Jérôme Florido, Benjamin Sauchy.
Monsieur Onfray, merci d'être là. Je suis très honoré. Il faut avoir vécu dans cet isoloir qu'on appelle l'Assemblée nationale pour concevoir comment les hommes qui ignorent le plus complètement l'état d'un pays sont presque toujours ceux qui le représentent. Proudhon.
Ah, super.
Très bien. Oui. Vous avez fait l'université populaire en 2002 pour combattre le FN.
Oui.
Moi, je suis d'accord avec vous, le prolétariat, ce peuple qu'on disait old school, new school, celui qu'on a mis de côté, le peuple, il souffre. Celui qui est en face de vous, il a souffert, il souffre, ses potes souffrent, mais on est devant... On continue et on veut avancer. C'est quoi les perspectives pour 2022 ? Parce que moi, quand je vous lis, et je veux être un grand auteur, quand je vous lis, j'ai peur d'une chose, une seule et une grande chose. C'est où va la démocratie ?
Alors, Michel,
vous avez tellement raison que c'est une question qu'il faudrait poser à tous ces gens qui se détestent la veille du premier tour et le soir du premier tour, du deuxième tour, sont copains comme cochons et on fait des alliances.
C'est sûr.
Donne-moi tes voix, je te passe la rhubarbe, le séné. Alors on a un socialiste qui dit mais moi je me maintiens. Puis après on lui dit non, finalement il se maintient pas. Alors il dit mais vous savez, ce ne sont pas les pressions. Enfin tout le monde a compris que finalement c'était pas la démocratie ça. La démocratie, puisque vous me faites l'amitié de citer Proudhon, c'est justement de prendre les gens là où ils sont. C'est le communalisme libertaire. C'est dans les départements et les régions, avoir un véritable pouvoir. C'est quoi le pouvoir du département aujourd'hui ? Vous savez bien, c'est de dire, eh bien, il y a de l'assistance aujourd'hui, c'est vraiment l'essentiel du travail d'un département, c'est de distribuer les aides sociales, mais c'est pas ça le pouvoir. C'est quoi ? C'est le rempirage public des chemins, c'est l'éclairage public, c'est le... on se dit, mais la politique dans les départements, dans les régions, c'est pas ça. On leur donne juste des tâches un peu vulgaires, un peu sommaires. Moi, je serais pour que... On est vraiment un pouvoir réel, la démocratie directe, ça s'organise. C'est pas seulement le référendum, mais c'est la possibilité de dire, voilà, on a des élections dans une commune, et c'est pas parce qu'on a élu un maire qu'il est de droit divin.
Oui, mais ce prolétariat, vous êtes d'accord avec moi, c'est pas un prolétariat, c'est pas ce peuple-là qui est identitaire, qui met le bulletin sur le FN et le RN.
Bah, c'est quand même une partie du peuple.
Une partie, mais pas totalement, quoi.
Ben, vous savez, le Rassemblement National a perdu la moitié de son électorat.
Bien sûr.
Et tout le monde dit, ben, c'est parce qu'il n'est pas allé voter cet électorat, etc. Mais pas du tout. Il y a simplement un moment donné où il faut se dire, mais quand Marine Le Pen nous a dit qu'on ne touchait plus à l'euro, on ne touchait plus à l'Europe libérale, qu'on ne touchait plus à Schengen, qu'on ne touchait plus à toutes les commissions, voilà, que finalement tout ça était formidable, ben, on se dit, ben, s'il s'agit de voter pour encore un Chirac quelconque, un Chirac des années 70 ou l'équivalent d'un Xavier Bertrand, les gens se disent, ben moi je ne me déplace pas s'il s'agit de ça. La vraie alternative, vous parliez tout à l'heure de l'alternative politique, c'est quoi ? C'est une alternative souverainiste. C'est la possibilité de reprendre en main son destin. C'est la possibilité de dire, mais tant qu'on restera dans le club européen, qui est un club libéral, on ne pourra rien faire. Donc aujourd'hui, si je ne vote pas, c'est parce qu'effectivement on me dit, choisissez votre tyran. Choisissez votre dictateur, choisissez celui qui va vous assujettir. Moi, je dis, j'ai pas envie de choisir ça, j'ai envie de choisir le peuple. Et de demander, j'étais dans la rue avec les marins-pêcheurs la semaine dernière, qui se battent pour pouvoir bosser, qui travaillent 15 heures par jour, qui sont endettés comme c'est pas possible, qui font des faillites parce que ça n'est plus tenable avec les quotas, avec un certain nombre de choses. On dit, mais écoutez ce peuple. Ben pas vous, hein, je sais que vous travaillez vraiment et que vous faites un boulot terrible, dur, etc.
Oui, il en rajoute un peu quand même.
Non, mais je connais le métier j'ai des amis qui sont levés à des heures pas possibles, couchés à des heures pas possibles, qui travaillent des heures pas possibles, et à la fin du mois, quand on regarde ce qu'ils ont gagné, je vous assure que ça fait pas beaucoup à l'heure.
Hein.
Et même s'ils ont parfois des restaurants un peu haut de gamme ou je ne sais quoi, ça coûte très très cher. Quand on veut faire un travail de qualité, qu'on va pas acheter ses produits dans une chaîne où il suffit de remettre un coup de micro-ondes. Quand on fait vraiment ce travail, vraiment, faut de la passion. Et les paysans, et les agriculteurs, etc. Ces gens ont des choses à dire. Et les jeunes, quand je vois des jeunes qui sont avec des scooters à 11h du soir à livrer des pizzas, je me dis, mais c'est pas un destin pour un jeune, ce genre de...
Le nouveau visage du prolétariat.
Bien sûr. Et donc, si un politicien... Je dis, je ne devrais pas dire un politicien, mais je veux dire, s'il y avait un souci pour ce peuple-là, mais immédiatement, il y aurait du monde derrière ce personnage. Pochy.
Oui, alors, Michel Onfray, je bois du petit lait depuis que je vous écoute là sur ce plateau. Effectivement, on nous a volé 2005. Sarkozy, pourtant, dans son bouquin, son dernier, nous raconte qu'il avait expliqué en 2007, dans son programme présidentiel, qu'il reviendrait sur le référendum. Mais quoi qu'il en soit, ils nous l'ont volé. Et depuis 15 ans, on voit effectivement les gens ne se déplacent plus. Je partage votre constat sur le fait que on peut pas regarder les résultats de dimanche dernier parce qu'il y a que 30% des personnes. Et effectivement, vous faites partie des majoritaires qui n'êtes pas allés voter. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, votre constat sur le problème de notre démocratie, sur la déliquescence de notre démocratie, c'est une chose. Pour vous, quel peut être le levier, non pas à moyen, à long terme, et pas de façon philosophique et pas de façon métaphysique, mais clairement, de façon concrète. Comment on peut faire en 2022 pour qu'il y ait non pas 30% de participation, mais 70% d'abstention? C'est quoi l'offre politique pour vous qui va changer la donne? Parce que le problème, c'est l'offre politique. D'un côté, on a les européistes, qu'on le veuille ou non, déguisés avec une croix de Lorraine ou avec une rose, la faucille, le marteau ou la flamme, mais on sait bien que c'est pas ça qui va nous faire...
Qui peut fédérer?
Qui peut fédérer
et donner un élan démocratique.
Ça ne sera pas vous, Michel, parce que vous n'êtes pas candidat. Hein,
à défaut, pour l'instant.
Non, c'est une plaisanterie.
C'est bon.
Non,
à défaut de parler de l'homme ou de la femme qui pourrait l'incarner, qu'est-ce que cet homme ou cette femme devrait incarner?
Alors, Michel
Onfray. Démocratie directe soit, mais pas que.
Michel Onfray.
Alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a l'idéal et la réalité. Dans l'idéal, la Ve République du général de Gaulle, c'est formidable parce qu'il y a un contrat social entre le peuple et l'élu. C'est-à-dire le général de Gaulle, il n'est pas là comme un dictateur, il est là comme porteur de la souveraineté nationale. Si la souveraineté lui dit « nous ne vous investissons plus », il s'en va. Les hommes politiques seraient crédibles s'ils n'étaient pas attachés à la fonction politique qui devient une profession. Le général de Gaulle dit « mais j'incarne votre volonté ». Mais le jour où vous ne voulez plus de moi, je m'en vais. Et il y a ce mouvement perpétuel entre le référendum et puis les élections intermédiaires, donc le septennat plus les élections. Si vous les perdez, vous vous en allez. Oui. Si vous perdez un référendum, vous vous en allez. Sinon, on vous confirme. Si on retrouvait cette règle du jeu, je pense que les gens repartiraient aux urnes. Moi, je pense que pour ça, il faut un grand homme. Un grand homme, il y en a un par siècle et il n'y en a pas 36. Il y a une autre hypothèse. L'autre hypothèse, qui est plutôt la mienne, c'est, à défaut de grand homme, c'est de refaire un grand peuple. Et il ne faut pas attendre un homme providentiel, mais un peuple providentiel. Moi, je pense que le peuple est souvent la populace quand il est fabriqué par des émissions de télé, par des réseaux sociaux, par l'abrutissement généralisé. Si on fabrique un peuple digne de ce nom et que finalement on se dit mais on va refaire une politique qui sera pour le coup girondine et pas jacobine, le pouvoir ne doit pas venir de Paris.
En sachant pour la proportionnelle, par exemple.
C'est bon, on va avancer parce qu'il ne reste que 3 minutes. Il y a 2 petites questions très rapides. Éric Zemmour, candidat, vous en pensez quoi?
On verra, parce que si d'abord tout le monde fait comme s'il y allait, moi je vais pas faire comme s'il y va. Et comme s'il y allait, je verrai s'il y va. Et s'il y va, je vous dirai à ce moment-là avec quel programme. On s'est parlé récemment. Oui. Je lui ai dit, mais tu pourrais muscler ton bras gauche. Parce qu'il y a quand même beaucoup de droite, voire d'extrême droite parfois dans tes propos. Et n'oublie pas qu'il y a les gilets jaunes, n'oublie pas qu'il y a le peuple. Et on peut pas être bonapartiste, ce qui est son cas, ou gaulliste ou gaullien, ce qui est parfois son cas, sans considérer que c'est toute la France qu'il faut représenter. Et pas seulement une partie de la France. Il représente bien une partie de la France sur des questions essentielles comme le constat. Je suis d'accord avec lui, le souverainisme, la souveraineté, la grandeur, l'histoire, l'histoire de France, qui ne peut ne pas être d'accord avec ça. Mais sur les propositions, il y a quelque chose d'assez antisocial chez lui. Moi, je pense qu'il faut avoir...
La critique d'un film a toujours été plus facile à faire que faire un bon film.
Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il travaille à un programme. Et alors, à un moment donné, s'il vient, s'il sort du bois et s'il dit « mon programme, c'est ça », réinvitez-moi et je vous dirai d'accord là-dessus, pas d'accord là-dessus.
La relation
et puis, on en parlera concrètement.
On prend rendez-vous, alors.
Oui.
Je vous ai juste une petite... Vous avez dit, c'est juste que Erdogan et Poutine étaient des gens qui étaient investis dans leur pays et qui les défendaient vraiment. Je voulais vous poser la question, si vous pensez que celui qui a mis une gifle à Macron aurait mis une gifle à Erdogan ou à Poutine?
Probablement pas, mais ceci dit, l'aurait-il mérité?
Non, mais... Voilà.
Ah ben non, mais...
voilà, parce qu'on est dans une véritable démocratie.
Non, mais Erdogan aurait-il mérité cette gifle? Oui. Je veux dire que je dis que de ces gens-là, qui ne sont pas mes modèles, ils ne sont pas mes héros. Ceci dit, c'est pas parce qu'on mérite une gifle qu'il faut la donner. Hein, entendons-nous bien, d'accord.
Erdogan et Poutine. Mais personnellement, je la donnerai pas.
Vous avez fait une collision avec pas mal de choses, mais je voudrais pas laisser croire que mes modèles sont ces gens-là. J'ai juste dit de ces gens-là qu'ils faisaient de la politique. Après, on est d'accord ou pas d'accord, mais ils font de la politique. Ils ont un projet pour leur pays. Ça vaut ce que ça vaut, c'est un projet pour le pays. Moi, je vous assure, les Turcs, ou même Poutine, il a donné de la dignité à son peuple, pas forcément à tout le monde, et parfois à un prix assez terrible. Ceci dit, on n'est pas digne quand on est français sur le terrain planétaire. On a un président qui se fait gifler. 2 jours plus tard, il va dans une école et il y a un gamin qui lui dit « Alors, comment ça s'est passé pour la gifle ?» Mais c'est pas digne. Il y a juste un moment donné où on se dit « Mais c'est ça l'image de la France sur la planète ?» Un président qui se trémousse au moment où il y a de la techno, qui se fait filmer avec des garçons torse nus qui font des doigts d'honneur. On se dit « C'est ça l'image de la France ?» Il y a un moment donné où, effectivement, il ne faut pas justifier la violence physique, mais de se demander, en faisant un travail de philosophe, pourquoi ça vient ? Pourquoi ça vient? Pourquoi il y a des gens qui, effectivement, peuvent se prendre un jour une gifle avec un garçon qui a l'air un peu demeuré? Pour le peu qu'on en sache, c'est quand même pas une grande conscience politique. Mais ceci dit, je me dis, il y a un moment donné où si vous faites de la politique, si vous êtes digne, si vous représentez dignement le peuple, je vous assure que le peuple change d'état d'esprit. Regardez Édouard Philippe. Il n'est pas impossible qu'Édouard Philippe démarre en septembre. Je pense qu'il pourrait le faire. Édouard Philippe, c'est la même politique que Macron. C'est la même politique. Si Édouard Philippe y va, tout le monde va y aller vers Édouard Philippe. Pour quelle raison? Parce qu'il est digne, parce qu'il n'a pas de casserole, parce que on l'a jamais vu faire du footing en short ou dire casse-toi tu pues ou tire-toi de l'un ou descends ici si t'es un homme ou t'as qu'à traverser la rue pour trouver du boulot. Non, il y a une espèce de représentation digne de la fonction. Va, c'est peut-être de la com, mais je préfère de la com avec un homme digne qui représente dignement. Je voterai pas pour lui, entendons-nous bien, hein, plutôt que quelqu'un qui nous représente si mal.
C'est fini. Ouais. Et si on veut discuter avec vous, Michel Onfray, 26 et 27 juin, place de Fontenoy, Paris 7e, pour des livres et des stars, c'est-à-dire ce week-end, effectivement, vous serez là?
Oui, je ne fais pas beaucoup de salons du livre, d'ailleurs j'en fais pas, mais là je l'ai accepté pour Nathalie Lévy qui me l'a demandé, pardon.
Ça fait plaisir qu'il y ait à nouveau des salons de livres.
Oui, ça c'est sûr, vous avez raison. Mais parce que la cause m'intéresse, d'abord parce que Nathalie Lévy fait des choses extraordinaires, elle était une vedette sur une chaîne de télévision, et elle a laissé tomber son statut de vedette pour pouvoir travailler auprès de sa grand-mère, parce qu'elle s'occupe de sa grand-mère, elle travaille sur cette cause-là, elle travaille sur la cause de l'illettrisme, et j'y suis allé au coup de cœur, elle m'a demandé, elle me dit, voudriez-vous venir pour justement cette cause qui est l'illettrisme? J'ai dit bien volontiers, donc j'y serai pour cette raison.
Avec qui?
Je sais qu'il y a des stars, on m'a dit qu'il y avait Michel Drucker, on m'a dit qu'il y avait... qui doit être l'invité d'honneur, je crois, au jeu.
Mais au 21e siècle, on a encore l'illettrisme qui est un problème. Enfin, ce dont le président de la République a parlé, d'ailleurs.
Plus que jamais.
Pourquoi plus que jamais?
Ben, parce que moi, je fais partie j'ai beaucoup dit, que mon père était ouvrier agricole, ma mère femme de ménage. Moi, on m'a appris à lire, à écrire, à compter, à penser dans l'école républicaine, où la méthode syllabique faisait des merveilles. Elle faisait pas des illettrés. J'ai fait de l'analyse grammaticale, de l'analyse logique, j'ai fait des dictées, deux par jour.
Du bled. Etc.
Du bled, bien sûr, vous avez raison. Quand tout ça disparaît, et qu'on vous dit, mais attendez, le génie de l'enfant est supérieur au talent du professeur.
C'est vrai.
C'est-à-dire, on demande aujourd'hui ses lumières à Greta Thunberg, 16 ans, elle ne va plus à l'école. Et une petite fille de 8 ans qui, au Cortés, en Espagne, dit, ah, mais ça fait 4 ans que j'ai envie de changer de sexe. Et tout le monde l'applaudit en disant, oh, bah oui, ma pauvre petite, etc. C'est-à-dire, il y a un moment donné où on se dit, c'est le crétin d'une université américaine qui va dire, oh, mais dites donc, les statues grecques, elles étaient blanches, ces gens-là travaillaient pour la blanchitude. On dit, mais mon garçon, elles étaient polychromes. Elles ont juste perdu leur couleur avec le temps, mais elles étaient peintes pour être justement figurative. Donc si effectivement ceux qui ne savent pas font la loi à ceux qui savent, les enfants font la loi aux adultes, si effectivement les enseignants se prennent des leçons et disent aux enfants, fais confiance à ton génie, on n'apprend plus à dessiner, gribouille, c'est du Picasso, tu tapes sur un ordinateur avec un programme, tu es Mozart toi-même. Il est bien évident qu'on a un illettrisme total. Oui. Je voyais l'autre jour des enfants, 20-21 ans, école de commerce, ils étaient très fiers de me dire, nous n'avons jamais lu aucun livre de notre vie, enseignement supérieur. Donc évidemment qu'on a de l'illettrisme, il n'est pas seulement ce qu'on imagine à la Zola ou à la Dickens, chez des pauvres gens, il est chez des gens qui peuvent parfois même être enseignants. Moi j'étais prof et j'avais des collègues illettrés. Hein.
Merci,
bien sûr.
Michel Onfray. Ce week-end, samedi, dimanche, place de Fontenoy, Paris 16e, des livres et des stars.